France Inter, le 7-9, première matinale de France. Léa Salamé, Nicolas Demorand.
Et nous sommes le mercredi 27 novembre. Bienvenue sur France Inter. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, les premières cérémonies d'hommage aux 13 soldats de la force Barkhane tués lundi soir au Mali dans un accident d'hélicoptère lors d'une opération contre des djihadistes. On va en parler avec un invité exceptionnel ce matin. Tout à l'heure, dans le grand entretien, le chef d'état-major des armées, le général François Lecointre. Les autres titres, Agnès.
Les premiers ralentissements autour de Paris, un millier de tracteurs à l'assaut de la capitale pour exprimer la colère des agriculteurs, la Commission européenne sur les rails pour une politique plus verte, le témoignage bouleversant d'une victime du chirurgien pédophile de Jonzac, et puis l'annuaire papier, c'est fini ou presque, les derniers exemplaires sont en train d'être distribués.
Et votre invité à 7h50, Léa.
La France est en deuil après la mort de nos 13 soldats, parenthèse d'unité nationale dans un climat politique et sociale tendue, on reçoit le patron des sénateurs LR, Bruno Retailleau, sera avec nous à 7h50.
À tout à l'heure.
France Inter.
Drapeau en berne, minute de silence, portrait posé sur une estrade. Un premier hommage a été rendu hier soir aux militaires français de l'opération Barkhane qui ont trouvé la mort lundi soir. Deux hélicoptères se sont heurtés lors d'une opération contre des djihadistes aux confins du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Les boîtes noires viennent d'ailleurs d'être récupérées, ce qui permettra d'en savoir un peu plus sur les conditions de cet accident. 7 des 13 victimes appartenaient au 5e régiment d'hélicoptères de combat de Pau, où une cérémonie était donc organisée hier soir. Reportage de Faustine Calmel.
C'est une ville endeuillée mais unie, foule au coude à coude, rassemblée devant la mairie, les militaires au premier rang et cet ancien du 5e régiment passé par le Liban, le Tchad et le Koweït.
Dans les zones désertiques, avec la poussière du sable, les sables qui enrayent les hélices, les fausses manœuvres, ça y est quoi. Je m'en doute qu'est-ce qu'ils ont vécu quoi, je suis un peu à leur place quoi.
Partager la douleur, épauler les familles et les proches, c'est aussi le souhait du maire.
Je veux leur dire à quel point nous avons l'intention de partager deux sentiments. Un sentiment de chagrin, d'arrachement. Et le deuxième, c'est un sentiment de reconnaissance.
François Bayrou égrène ensuite les noms des 7 soldats de Pau.
Capitaine Nicolas Mégard.
Mort de la France.
Lieutenant Alex Maurice.
Mort de la France. Les enfants de la patrie.
Beaucoup d'admiration.
Armel se rappelle Alex, charmant, souriant, compagnon de l'une de ses plus proches amies.
Beaucoup d'engagement. Je trouve leur métier admirable. J'ai un profond respect pour eux. Ils sont des hommes courageux.
Des hommes à ne pas laisser tomber dans l'oubli, renchérit Valérie.
On peut pas vivre, continuer notre vie en ignorant ces sacrifices-là. Ils sont trop importants. C'est important d'être présent pour leur témoigner à eux et à tous leurs frères d'armes qu'on n'est pas indifférent à ce qu'ils font pour nous.
Et la cicatrisation sera longue, confie une femme de militaire. Même si on le sait, dit-elle, cela faisait partie de leur destinée.
Cérémonie hier soir également dans le Vaucluse, en hommage aux 4 soldats du 4e régiment de chasseurs de Gap tués dans cet accident, en attendant l'hommage national qui leur sera rendu aux Invalides par le chef de l'État dans les tout prochains jours. Députés et sénateurs ont observé hier une minute de silence, mais les élus de la France insoumise n'ont pas attendu pour demander un débat sur le sens de l'engagement français au Sahel qui a coûté la vie à 41 soldats français depuis 2013.
Il est 7h04, Agnès, la journée de colère des agriculteurs.
Qui dénonce les prix toujours plus bas pratiqués par la grande distribution, mais aussi les agressions et la suspicion généralisée sur leurs pratiques. Ils ont donc décidé ce matin de bloquer Paris. Bonjour Manuel Ruffez.
Bonjour.
Vous êtes aux Ulysses dans l'Essonne, alors comment ça se passe ?
Eh bien très concrètement, il y a plusieurs points de rendez-vous dans le secteur, hein, tout autour de nous. Ici aux Ulysses, depuis 6 heures, ce sont une quinzaine de tracteurs qui se sont donné rendez-vous et qui partent d'ailleurs à l'instant en convoi escorté par les forces de l'ordre pour rejoindre un autre point de rendez-vous et faire la jonction avec encore plus d'agriculteurs et encore plus de tracteurs, tous ceux en fait qui arrivent de cette partie sud-ouest de Paris. Et l'objectif, eh bien, c'est bien de faire route vers Paris en empruntant à plusieurs dizaines de tracteurs l'autoroute A10, de quoi très sérieusement perturber la circulation. Alors ces agriculteurs, eh bien ils dénoncent pêle-mêle la loi alimentation promulguée il y a un an, mais sans résultat, disent-ils. Les accords de libre-échange avec des pays beaucoup moins regardants que le nôtre sur les normes et les réglementations, et ces polémiques sur les zones de traitement 5 mètres, 10 mètres, 150 mètres autour des habitations, ils se sentent mal aimés, c'est vraiment ce qu'ils racontent tous, une profession dénigrée, déconsidérée Et aujourd'hui, en tracteur, ils viennent le dire à Paris.
Manuel Ruffez, aux Ulysses avec François Rivalon pour les moyens techniques. Social encore avec la réforme des retraites et la fermeté affichée hier soir par Édouard Philippe. Le Premier ministre a rencontré les parlementaires de la majorité et le message transmis par Matignon est celui de la détermination à mettre en place un régime universel. Il n'y aura pas de clause du grand-père, a redit Édouard Philippe, et le gouvernement accélère son calendrier avec des annonces d'ici mi-décembre. Emmanuel Macron, de son côté, a assisté hier soir aux 80 ans du CNRS, l'occasion de réaffirmer son ambition de consacrer 3% du PIB à la recherche contre 2,2% aujourd'hui, pour permettre à la France de rester au plus haut niveau international. Sophie Bécherel a assisté aux discussions entre le chef de l'État et plusieurs chercheurs venus plaider leur cause.
Les 6 chercheurs du CNRS invités à s'exprimer ont été unanimes. La recherche française manque de moyens humains et financiers. Raphaël Rodriguez a Bac plus 15, de très grands prix internationaux et pourtant il gagne 3 400 euros par mois, dont une prime de 600 euros. C'est dissuasif pour les jeunes, a-t-il expliqué à Emmanuel Macron.
Un petit jeune qui commence au CNRS, il va commencer à 1 800 euros par mois. Si c'est des gens qui ont fait 6 ans aux États-Unis, qui ont 2 enfants, qui habitent à Paris près de leur institut pour être efficace et travailler, habiter pas loin de là où ils travaillent, ils ne peuvent littéralement pas vivre.
Le président lui a répondu « Je serai au rendez-vous pour la loi de programmation prévue l'an prochain ».
On ne peut pas penser la puissance économique française et européenne sans penser la force et l'investissement dans la recherche. Ça fait des décennies qu'on parle des 3%. Je crois que cet objectif doit être réaffirmé, mais en nous donnant à travers cette loi de programmation aussi les moyens de la part publique qu'on y alloue.
Pour Ika Polpon, chercheuse en biologie marine, la loi devra aussi assouplir les statuts.
On développe des programmes de recherche sur la pollution plastique et depuis 5 ans, on a cet ingénieur qui a développé une expertise quasiment unique en France. On ne peut pas la recruter puisqu'il y a l'application de la loi Sauvadet qui fait qu'on ne peut pas multiplier les CDD, ce qui est une bonne chose par ailleurs, mais qui ne permet pas non plus de CDIser, donc c'est très difficile.
Elle n'est pas ressortie totalement convaincue vaincu de la soirée, à l'inverse de Raphaël Rodriguez, qui estime que le président a bien compris les messages, notamment l'allègement des formalités administratives.
Reportage de Sophie Bécherel. C'est le jour J pour la Commission européenne. Les eurodéputés réunis à Strasbourg devraient valider aujourd'hui la commission présidée par Ursula von der Leyen, avec un mois de retard et de nombreuses péripéties. La priorité de la future commission est maintenant de peaufiner son pacte vert pour l'Europe, dont les grandes lignes devraient être annoncées dès le 11 décembre prochain. Angélique Boin.
Devenir le premier continent climatiquement neutre au monde, voilà l'ambition d'Ursula von der Leyen. Et pour y arriver, elle a promis des mesures concrètes dans les 100 premiers jours de son mandat. Elle est très attendue sur le sujet, estime l'eurodéputé social-démocrate Raphaël Glucksmann.
Le Green New Deal, c'est véritablement le projet des 5 prochaines années. C'est ce qui déterminera en fait si cette commission est un échec ou une réussite.
Taxe carbone aux frontières, plan d'investissement de 1 000 milliards pour développer massivement l'économie verte. Tous les secteurs et pas uniquement les transports, l'isolation ou les renouvelables seront concernés, explique Pascal Canfin, le président de la commission environnement au Parlement.
C'est pas seulement le climat, le Green Deal, c'est aussi la santé, c'est la question des pesticides, la question des perturbateurs endocriniens, c'est la biodiversité, la question de la politique agricole commune, par exemple, et c'est la question de l'économie circulaire avec les plastiques.
Pour Greenpeace Europe, on est peut-être à un tournant, admet son porte-parole, Marc Bredy, à condition que les mesures prises soient radicales et rapides.
Dans le secteur des transports, par exemple, interdire les vols en dessous de 500 km et les remplacer par du rail, taxer le plastique. Le plastique, c'est du pétrole. Placer des panneaux solaires sur tous les nouveaux bâtiments qui sont construits en ce moment. Ce qui compte, c'est les mesures qu'on peut prendre maintenant.
Légiférer vite et fort, un véritable défi pour l'Union européenne qui ne se construit qu'avec des compromis. À Strasbourg, Angélique Boin, France Inter.
Le pape François a annoncé hier dans l'avion qui le ramenait de son voyage à Nagasaki et Hiroshima vouloir inscrire dans le catéchisme de l'Église le caractère immoral non seulement de l'usage mais même de la possession d'armes atomiques. Retour en France avec le témoignage d'une des 250 victimes présumées du chirurgien de Jonzac. L'homme aurait abusé d'enfants malades durant 30 ans dans plusieurs hôpitaux. Certaines victimes se souviennent des gestes du chirurgien, d'autres au contraire ont occulté les agressions. C'est le cas de cette jeune femme que Sophie Parmentier a rencontrée.
Elle préfère qu'on ne donne pas son vrai prénom et parle de sa grosse dépression quand les gendarmes lui ont révélé qu'elle était sur la longue liste des victimes que Joël Le Squarnec recensait lui-même dans d'effrayants carnets où il détaillait de façon sordide comment il agressait les enfants. Elle était une fillette de 10 ans quand le chirurgien a écrit dans 3 paragraphes d'un de ses carnets, comment il l'avait violée après l'avoir opérée de l'appendicite.
J'ai un premier passage où il parle de moi sur ma table d'opération. Un second passage qui parle de mon viol dans ma chambre le lendemain matin. Et un troisième passage où justement, il était revenu me voir, mais il était un peu déçu de ne pas me voir. Voilà. Parce que j'étais notamment partie aux toilettes après qu'il m'ait violée.
Un viol indicible pour cette fillette qui n'a jamais rien raconté et a grandi sans avoir conscience de son traumatisme, amnésie traumatique instinctive qui la bouleverse aujourd'hui.
Pourquoi je m'en rappelle pas? Pourquoi j'en ai pas parlé à mes parents? Vous imaginez, vous découvrez quelque chose que vous avez occulté et qui fait partie de vous parce que vous avez tout ce poids sur le dos.
Elle comprend enfin pourquoi elle a toujours eu tant de mal à supporter qu'un homme la touche et elle va se battre désormais pour que le chirurgien pédophile paye pour ce qu'il lui a fait, conclut-elle.
Témoignage recueilli par Sophie Parmentier. 2-2, match nul hier soir entre le Real Madrid et le PSG en Ligue des Champions. 2 buts de Karim Benzema côté madrilène, puis but de Mbappé et Sarabia côté parisien. Le PSG qui termine en tête de sa poule. Ce soir, match décisif pour Lyon qui se déplace sur la pelouse du Zénith Saint-Pétersbourg et Lille reçoit l'Ajax Amsterdam.
Et enfin, vous avez demandé le 22 à Asnières, ne quittez pas.
Asnières où vit Étiennette, 80 ans, qui a bien du mal à se résoudre à la fin du Botin. Les derniers exemplaires des pages blanches seront distribués d'ici la fin de l'année, à condition de les commander sur Internet. C'est une décision de la société Solocal qui dit perdre de l'argent avec le papier et préfère donc désormais réorienter ses activités vers le numérique. Thibault Lefebvre a rencontré Étiennette, Botin à la main.
Le bon vieux Botin, mode d'emploi.
Ah voilà, je cherche une amie, son nom. Je retrouve son numéro là.
Des coordonnées imprimées en tout petits caractères et rangées par ordre alphabétique. Étiennette a reçu son premier annuaire en 1958.
Il y avait pour les portables, il y avait pas. On était bien contents de les trouver ces bottins. Tout le monde n'a pas Internet. Moi je l'ai, mais ça m'énerve des fois. Le bottin, vous trouvez tout de suite. Internet, il vous pose toujours un tas de questions alors. C'est clic, 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 enfin avec ses doigts. Mais quelquefois, vous pouvez le faire avec la parole.
Avec les assistants vocaux.
C'est ça. Alors, c'est pas facile parce qu'ils répondent pas à votre question, du coup.
Illustration.
Je voudrais le numéro de téléphone du fleuriste Nervure. Là, il me répond. Je pense que c'est le sien.
Vous n'êtes pas sûr?
Bah, attendez, je vais le contrôler.
Vous vérifiez sur le bottin?
Oh, c'est pas celui que m'a donné Google.
Google avait pourtant le résultat, mais Étiennette ne l'a pas trouvé. Elle reste évidemment bien plus à l'aise avec le bottin.
Tout ce qui est bien, on nous le supprime. C'est une sécurité d'avoir quand même ça pour les personnes qui n'ont pas toutes les nouvelles techniques, Internet et tout ce qui s'ensuit. Faut penser aux personnes âgées.
Les personnes âgées et les autres qui pourront encore consulter les pages jaunes l'année prochaine. La fin de la distribution de l'annuaire des professionnels est-elle prévue pour 2021?
Et pour célébrer comme il se doit ces derniers bottins, ce local promet de produire quelques éditions collector.
Merci Agnès Soubiran. Dans 3 minutes, le Zoom avec la suite de notre série de reportages consacrée à la COP25. Direction aujourd'hui le Cameroun.